La Transhumance, une randonnée littéraire sur les traces de Fmur. Le 17 août, deuxième jour du Fmurcival, un drôle de troupeau composé d'une soixantaine d'humains s'est lancé dans une aventure pas comme les autres. Inaugurer le sentier hommage à la BD Le Génie des Alpages, allant de Champsella à l'alpage de Tramouillon, pour avancer le cœur léger et motiver les pieds fatigués. Des pauses lecture et un quiz pastoral ont agrémenté la Transhumance. Notre reporter a pu nous les ramener pour les partager. Dans ce premier épisode, Christophe Geoffrey nous lira le texte inédit « Eugénie des Alpages » qui est né à 25 ans. Eugénie est en effet née à 25 ans à Champsella en 1890. Nous découvrirons ensuite une énigme des pères de l'ermitage de Tramouillon.
J'ai proposé de le faire avec l'histoire authentique de l'Eugénie du village qui est née ici en 1890 à l'âge tardif de 25 ans. L'Eugénie, la Junie, dans le parler local, arrive dans le village de l'Alpage parce qu'elle y est placée par l'assistance publique. La famille Aymar, qui l'accueille, devient sa famille pour toujours. Ça a été comme ça pour des tas de gens. Cette famille réside au Seik. Le Seik, c'est charmant. Ça veut dire le Sureau. Et c'est la banlieue nord du Chambon, à 800 mètres d'ici. L'Eugénie y grandit, comme le montrent les recensements de la commune et les cahiers d'appel de l'école du chef-lieu. Le temps passe et l'Eugénie devient une jeune fille. Et voici qu'en 1889, elle prépare son mariage avec Jacques, de l'ancienne lignée des Amboles, ça c'est leur sobriquet, qui résidait au Chambon. Le Chambon, c'est charmant, ça veut dire le Chambon, et c'est la banlieue sud du Seik. Et là, coup de théâtre. Le maire, M. Aymont, prépare les actes officiels et découvre que l'Eugénie n'est jamais née. Il y a bien son livret de l'assistance publique qui affirme qu'elle a vu le jour le 6 décembre 1865 à Marseille, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Interroger les services de l'état civil marseillais ni disent ne posséder aucun acte de naissance de l'Eugénie. Rien. Nada, aurait dit Don Quichotte. Consternation pour l'Eugénie du village et pour Jacques Ambolle. On l'a longtemps appelé la Junie Jacques Ambolle. Parce que c'est très embêtant d'exister sans être né. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire, à commencer par se marier. Naître ou ne pas naître, voilà la question. Le maire, M. Aymont, qui est maquignon, décide de prendre le taureau par les cornes. On se rend à Embrun, alors sous-préfecture, et on trouve un juge attentif au conseil de Don Quichotte. L'Eugénie semble exister, mais il ne faut pas se fier aux apparences puisqu'elle n'est pas née. Cependant, s'il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas non plus se fier aux apparences des apparences. Donc, si plus de 500 habitants du village peuvent témoigner de l'existence de l'Eugénie, c'est la notoriété publique, c'est bien qu'elle a dû naître à un moment ou à un autre, même si ça nous échappe. Par conséquent, nous, juges, ordonnons à monsieur le maire du village d'inscrire notre jugement dans le registre des actes de naissance en date du 17 avril 1890. Et c'est ainsi que le génie du village est né ici, à l'âge tardif de 25 ans. Aussitôt, prise d'une fureur de vivre, elle se marie à 21 jours. Elle attend quand même d'avoir 2 ans et environ 1 mois pour mettre au monde son premier enfant. Dans toute cette affaire, saluons les mérites de l'administration française, qui, en reconnaissant à l'Eugénie le droit à l'erreur au moins 100 ans avant sa proclamation, l'administration n'a reproché à Eugénie de lui avoir dissimulé sa naissance. Et quel tact, quelle délicatesse prémonitoire de l'administration à l'endroit d'Eugénie, puisque l'assistance publique l'avait placée dans la famille Aymar, dont le sobriquet était Patience. Et il en a fallu de la patience pour attendre 8499 fois 24 heures entre le moment où Eugénie a vu le jour à Marseille et celui où elle est née dans le village de l'Alpage. Avec l'histoire authentique de l'Eugénie, nous avons pris contact avec le village afin d'approfondir la cohérence de la randonnée jusqu'à Tramouillon. et nous allons commencer l'ascension en remontant dans le temps grâce à un grand-oncle putatif par adoption de l'Eugénie du village. Ce tonton s'appelait François Aymar et il exerça un métier très commun à son époque, mais dans des conditions très particulières. François Aymar était berger du troupeau du roi. C'est la classe. Berger du troupeau du roi, c'était dans les années 1815 à 1825. Cependant, ne nous laissons pas impressionner par les apparences d'une profession prestigieuse. Fions-nous plutôt à la rigueur des méthodes éprouvées par les historiens, on l'a déjà vu hier, hein. Et commençons par identifier le bon François Aymar, parce qu'il y eut plusieurs François Aymar à cette génération au village. Un acte de mariage entre François Aymar et Marie Armand nous met sur la bonne piste. Il signale que François Aymar est berger. Mais cet acte apporte une preuve irréfutable. Un témoin signe mouton. C'est vrai, hein? Cependant, il ne faut pas se fier aux apparences, parce que ce mouton-là est gendarme. Est-ce qu'un mouton et un gendarme iraient raconter des bobards à propos du mariage d'un berger du troupeau du roi? Impossible. Donc le bon François Aymar, c'est lui. Le gendarme mouton était en service dans le secteur de Mouriès, dans les Bouches-du-Rhône. Et si François Aymar fut berger du troupeau du roi, ce fut à la bergerie royale d'Arles. Cette bergerie était comme une antenne de la bergerie de Rambouillet, que Louis XVI avait fondée en 1786, dans le but de répandre la race espagnole des moutons mérinos en France. La bergerie a été tour à tour nationale, impériale, et elle est redevenue royale quand les frères de Louis XVI ont été de retour au pouvoir pendant la période de la Restauration. Mais il y a mieux. Et là, vraiment, ça sent le départ. Imminent. Qui dit berger du troupeau du roi? Dit troupeau du roi. Et le troupeau du roi? Ben, il passait l'hiver dans la bergerie d'Arles, ça, d'accord. Mais où est-ce qu'il passait l'été? Eh bien, les travaux de l'historienne arlésienne Sandrine Cricorian permettent d'affirmer que le troupeau du roi passa plusieurs étés dans les alpages de ce village. Très chic. Pas Tramouillon, mais la Moutte, à Valotte, oh, c'est pas très loin, vous y serez oui, tout de suite. Aller, hein. Et on voit bien là encore qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Puisque si tout alpage correspond à un village, mais que tout village n'a pas forcément d'alpage, comme le village olympique, certains villages ont plusieurs alpages. C'est le cas de ce village. Or, quand les troupeaux montaient à cette époque dans les alpages, eh bien, un an sur deux, ils passaient par là. Donc, les moutons du roi passaient ici. Pourquoi ils passaient par là? Parce qu'en ce temps-là, l'itinéraire des transhumants était organisé en fonction des semailles de céréales qui se faisaient un an sur deux, la deuxième année, les terres se reposaient, un an sur deux par grand quartier. Et l'année où le quartier du Souriau, qui est la grande pente qui vient de Saint-Crépin, là, n'était pas semé, les transhumants passaient par là pour aller dans les alpages. L'année suivante, ils passaient par l'autre côté de la commune. Donc, pendant quelques centaines de mètres, vos pas vont marcher dans les traces des papates et un peu des crottes, parce que quand il y a des brebis qui passent, hein, tout de suite, c'est tapissé des mérinos royaux, jusqu'au moment où, en arrivant au début du cross, eh bien, vous allez bifurquer pour longer le canal du Chambon. Bref, un itinéraire royal comme prélude à un chemin, un sentier. Génial. Passe donc par ici, Fmur, avec ton long cortège de brebis farfelues, escortés par des mérinos royaux. Don Quichotte vous précède, lui dont on rappelle rarement qu'il voulut se faire berger lorsqu'il fut obligé de prendre sa retraite de chevalier à la triste figure parce qu'il avait cotisé beaucoup trop de trimestres à la caisse des ingénieux Hidalgo. Et vous, randonneurs, soyez résistants. Les pentes à 190 degrés du sentier du génie des alpages sont parfois un peu raides à la descente, mais jamais à la montée.
Marum eremitarum tramuluyonan sium kim magis sakekina verunt magis enigmas compons uerunt, qui veut dire à peu près que les gens qui vivaient dans l'ermitage du tramouillon s'enquiquinaient et, pour passer le temps, composaient des énigmes.
Première énigme, père Manganate, ermite du Clos Saint-Jean, connu pour avoir inventé les skis à bascule afin de venir en aide à son pote Assium qui n'arrivait pas à apprendre le télémarque. Écoutez bien, le rhododendron est mon nom dans le dictionnaire. Et quand vient la belle saison, je fleuris tout lubac de trabouillon, tellement j'ai de caractère. Au fait, dans le parler local, comment m'appelle-t-on ? Eh bien, la bruyère. Je fleuris tout lubac de trabouillon, tellement j'ai de caractère.
C'était La Transhumance, une randonnée littéraire sur les traces de Fumur. Merci d'avoir écouté. En attendant de nous retrouver sur le sentier, nous vous souhaitons une belle soirée. Merci à l'association Autour de la Bias, le fonds de dotation Fumur au futur et les éditions Déléature pour leur accueil dans le cadre du Fumurtival.